Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, un mort et une femme déplacée gravement blessée. Bilan d'une fusillade survenue dans la nuit de samedi à ce dimanche, près du camp des déplacés de guerre de Kanyarutinya, en groupement de Munigi, à environ 10 km au nord de Goma, dans les territoires de Nyiragongo. Sud Kivu, lancement hier samedi à Bukavu de la campagne de vulgarisation de la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Une loi adoptée par le Parlement congolais, promulguée par le chef de l'État et publiée récemment dans le journal officiel. L'invité de ce journal est le médecin coordonnateur du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine dans le Nord Kivu. Docteur Elia Badjo nous parle des activités menées en faveur des déplacés de guerre se trouvant dans différents sites à Goma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, un homme et une femme déplacés, gravement blessés, près du camp de déplacés de guerre à Kanyarutinya, groupement de Munigi à environ 10 km au nord de la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo. Les sources sur place indiquent que l'origine et les responsables de ces tirs ne sont pas toujours connus. Le point de la situation avec Gabriel Wamenya.
C'est aux environs de 21h que des détonations d'armes automatiques ont été entendues autour du camp des déplacés de Kanyarutinya, créant ainsi une vive panique au sein des déplacés. Ces coups de feu ont duré plus d'une heure, confirme l'un des responsables des déplacés dans ce site qui héberge environ 45 000 ménages. Mapendo Nyunye Newton. Les camps des déplacés de Kanyarutinya situés à la porte d'entrée de la ville ne disposent jusqu'à ce jour d'aucune disposition sécuritaire adéquate. Les risques d'infiltration des criminels dans ces sites sont élevés car les entrées et les sorties de cet emplacement ne sont pas contrôlées en dépit des multiples appels lancés par les organisations locales et la société civile dans les territoires de Nyiragongo aux autorités compétentes. Contacté, le porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, reconnaît l'acuité de la problématique et affirme que des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser ces lieux sans plus de détails néanmoins. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Au Nord Kivu encore, les déplacés de guerre en provenance du territoire de Rutshuru, estimés à plus de 45 000 ménages, vivent dans un environnement d'insécurité depuis leur arrivée dans le sud de Kanyarutinya depuis plus de 3 mois pour les uns et 6 mois pour les autres. Kanyarutinya est situé à environ 10 km au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Il ne se passe pas une nuit sans que des coups de feu crépitent autour de ce camp, affirment plusieurs sources dans le territoire de Nyiragongo. Cette situation augmente la vulnérabilité de ces milliers de personnes qui vivent dans la précarité notoire. Tout autour de ce site, il n'y a ni police ni l'armée, comme le confirme l'un des responsables de la société civile du territoire de Nyiragongo. Le déplacé Mambo Kawaya a été joint par Gabriel Wamenya.
Vous savez, il y a plusieurs cas de violations des droits humains qui sont perpétrés et enregistrés dans ces camps. Mais aussi, il y a parfois des crépitements de balles, ou soit la circulation d'armes à feu par certaines personnes non notamment identifiées. Donc l'urgence d'abord serait de déployer une force pour la protection de ces milliers. Et aussi partant des intox qui sont souvent alignés ou soit qui circulent contre les forces de la MONUSCO. Souvent, vous verrez que ce sont des jeunes qui viennent ailleurs pour venir peut-être semer à ces forces. Ces forces messages ou ces forces humaines au sein de la communauté donc déplacée. Donc l'urgence d'abord serait de déployer une force de police, voire même des militaires, pour bien sécuriser cette population et surtout que personne jusque-là maîtrise le nombre exact.
Contactez le porte-parole du gouverneur des provinces d'y être au courant de la situation. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndike Kaiko affirme que les dispositions sont en train d'être prises par les autorités. Nord Kivu toujours, les combats ont repris tôt ce dimanche entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le groupement de Bichoucha. C'est dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. Selon les sources contactées à Kichanga, des tirs sont attendus depuis 10h du matin dans la localité de Tchumba, en groupement Bichoucha, une vingtaine de kilomètres de Kichanga. Elle précise que les éléments FARDC ont reconquis plus de 4 localités qui étaient occupées par les rebelles dans le groupement de Bichoucha. Plusieurs groupes armés interviendraient aussi dans ces combats qui sont au troisième jour ce dimanche dans cette zone. 19 sources. Et puis le centre hospitalier de l'unité situé dans la partie nord de la ville de Butembo enregistre ces derniers jours une carence des patients. Cette situation fait suite aux attaques répétitives par des groupes armés d'une position militaire située proche de cette structure sanitaire dans la cellule Miyake en commune de Boulengera. Les responsables de ce centre hospitalier plaident ainsi auprès des autorités pour la délocalisation de cette position militaire afin d'épargner la population, plus particulièrement les patients, des conséquences de ces attaques. Mumbere Vatsikirire Georges, gestionnaire administrateur du centre hospitalier de l'unité, explique au micro de Grévis Salomon.
Auparavant, au moins, on avait autour de 160-180 malades à consultation. Mais aujourd'hui, nous avons 37 malades à consultation. Ça fait une semaine aujourd'hui que nous avons été victimes d'une attaque. Et donc, les malades qui étaient là, ils ont eu des tensions parce qu'il y a des vitres qui ont été cassées par les balles. Il y a même les murs qui ont été touchés. Et alors, cela entraîne une terreur. Même le personnel soignant, ils ont une grande crainte, à tel point qu'ils commencent aujourd'hui à demander de ne plus passer les nuits à l'hôpital pour faire uniquement les journées, alors que c'est une erreur grave parce que nous avons des femmes enceintes, la plupart qui viennent la nuit. Ils ont difficile à accoucher car les personnels ne sont pas présents à l'hôpital. Les autorités politico-militaires de délocaliser la position militaire ne fût-ce qu'à 500 mètres de l'hôpital et non pas directement à 10 mètres dans l'hôpital. Tout à ils foulent leurs pieds pour chercher de l'eau, alors que c'est l'eau que les malades doivent consommer. Alors nous avons mal maintenant à subvenir aux problèmes de malades.
En Ituri, lancement hier samedi à Bunia du projet d'assistance aux victimes d'abus et exploitation sexuelle commis par les personnels des Nations Unies. Selon les responsables de l'organisation Samani Amazingira qui va l'exécuter, l'objectif est non seulement la prise en charge scolaire des enfants victimes, mais aussi l'accompagnement de leurs mamans au métier professionnel. Environ 30 personnes ont été formées pour identifier des bénéficiaires dans la communauté. Reportage Marcel Kizabiamungu.
Il s'agit d'un projet d'une année financé par la MONUSCO à travers sa section des conduites et disciplines. Il consiste à renforcer économiquement les bénéficiaires qui sont principalement les personnes affectées par des abus et exploitations sexuelles perpétrés par les personnels des Nations Unies, mais aussi à sensibiliser la communauté à combattre ces fléaux dans la société. Delou Lusambia, coordonnateur de l'organisation Samani Amazingira, explique.
Bon, nous allons identifier ces personnes qui ont été formées pour les intégrer dans les ateliers de coupe et couture, de pâtisserie, de salons qui existent dans la zone. Et puis, on va chercher des coachs qui vont leur coacher sur comment élaborer les plans d'affaires, donc le business plan.
Un mécanisme de canalisation des plaintes à base communautaire est mis en place pour une bonne exécution de ces projets. Marie Kebazairi Baguma, présidente de cette structure, explique son rôle.
Nous intégrons cette sensibilisation à tous les niveaux, à toute activité que nous avons dans nos organisations. Nous insérons les messages par rapport à EAS ou bien abus et exploitation sexuelle.
Notons que ces projets concernent les villes de Bunia et Mahagi en Ituri, mais aussi Kisangani et Dongo pour les deux provinces voisines de la Tchopo et du Otuili. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, lancement hier samedi à Bukavu de la campagne de vulgarisation de la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Une loi adoptée par le Parlement congolais, promulguée par le chef de l'État et publiée récemment dans le journal officiel. Quelles sont alors les quelques innovations contenues dans cette loi spécifique sur les pygmées de la RDC? Emmanuel Elamejua Kabedi, reportage.
La loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmées de la RDC comporte trois principales innovations. Monsieur Muzaliwa Kitambala, lui qui encadre les peuples autochtones du Sud Kivu.
C'est une loi spécifique aux peuples autochtones pygmées qui garantit un peu les droits des peuples autochtones pygmées. La première innovation, c'est que la loi reconnaît aussi la pharmacopée, c'est-à-dire la médecine traditionnelle des peuples autochtones pygmées. La loi reconnaît aussi les droits fonciers des peuples autochtones pygmées sur les sols de leur terre. La troisième innovation, c'est qu'il y a la création d'un fonds spécial pour la promotion économique des peuples autochtones pygmées.
Les bénéficiaires directs demandent à toutes les parties de s'impliquer pour une intense vulgarisation de cette loi. Augustin Safari Mofanzara, jeune autochtone pygmé du territoire de Kabaré.
Avec cette loi ici, on a lu l'article 30 qui redynamise encore la culture, la coutume que nous utilisons, car on avait déjà dans les oublis de la coutume, nous, la génération qui est là. Nos recommandations de nous faciliter que la loi soit mise en œuvre, mais aussi aux médias, mais aussi aux organisations qui travail au compte des pygmées, de favoriser la vulgarisation que tout un chacun comprenne de quoi s'agit-il de ces lois.
La campagne de vulgarisation de cette loi va jusqu'au 15 février 2023, date de son entrée en vigueur. Emmanuel Lamijoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans la province du Bas-Ouélé, environ 14 000 personnes, dont 70% des femmes, souffrent du VIH-SIDA. Ces statistiques ont été présentées par le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA au cours des manifestations organisées hier samedi à Bouta. Ceci en marge de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, célébrée le 1er décembre de chaque année. La majorité des malades viennent de l'intérieur et ne bénéficient pas des traitements antirétroviraux. Conséquence, plusieurs cas de décès et de nouveaux cas de contamination enregistrés dans différentes entités. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
La cérémonie commémorative de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, célébrée le 1er décembre de chaque année, a été décalée pour des raisons logistiques. Selon le ministre provincial de la Santé du Bas-Ouélé, 13 250 personnes vivent avec le VIH-SIDA, dont 68% des femmes, soit un taux de prévalence à impact viral de 2,4% au niveau national. Et d'ajouter que ce nombre va croissant faute d'une bonne sensibilisation de lutte contre cette pandémie. Pour sa part, le ministre provincial de l'éducation, assumant l'intérim du gouverneur qui a présidé cette cérémonie, appelle la population au respect des mesures de lutte contre ce fléau qui fait des victimes dans la province, notamment l'abstinence, la bonne fidélité, l'usage correct des préservatifs et le dépistage. Dans le souci d'intensifier la lutte contre le VIH-SIDA, une série d'activités sur la sensibilisation est programmée par la coordination provinciale du PNMLS afin d'inculquer la population, notamment des jeunes, une culture de la lutte contre le VIH-SIDA. Ceci dans le souci de stopper ou de réduire cette pandémie dans le Bas-Ouélé. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour la province de Maïndombé. Elle vient de bénéficier d'un financement pour la plantation de 2000 arbres au cours de l'année prochaine dans du Fonds forestier national FFN. Ces arbres vont sécréter les crédits carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'annonce le chef d'antenne du Fonds forestier national de cette province, Jean-Albert Manzongo. Le point avec Irène Beaumont.
En marge de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, au moins 2000 arbres d'acacia vont être plantés sur une étendue de 4 hectares dans la province du Maïndombé. Le Fonds forestier national FFN antenne du Maïndombé a mis à la disposition de cette province un montant de 7 200 $ américains pour permettre la réalisation de ces projets en raison de 1 800 $ par hectare. Lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers, tel est l'objectif de ces projets de reboisement. Jean-Albert Manzongo est le chef d'antenne du FFN Maïndombé.
Les projets de reboisement que la province a bénéficié auprès du Fonds forestier national pour assurer les reboisements afin pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers. Parce qu'on va planter les acacias qui sont des arbres importants pour la séquestration de crédit carbone. Donc ça va avoisiner 2000 arbres qu'on va planter.
Notez que le Maïndombé étant une province très importante en RDC en ce qui concerne les richesses forestières, une brigade de reboisement sera bientôt créée dans cette partie du pays afin de pérenniser ces projets bénéficiaires du FFN. L'annonce a été faite lundi dernier par la gouverneure Rita Bola lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre à Inongo. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
La prochaine conférence des gouverneurs aura lieu bientôt en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Elle sera présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est attendu incessamment dans la ville. Des éléments de la garde républicaine et d'équipes d'avance continuent d'y atterrir. Les délégations de 26 provinces sont également attendues pour la circonstance, ce qui crée une ambiance festive inhabituelle. Les récits de notre correspondant régional sur place, Paul-Richard Malengela.
Dès le début de la semaine, une ambiance mouvementée et peu habituelle règne ici en Mbandaka. La ville s'apprête chaque jour à mettre sa plus belle robe, la pose des poteaux d'éclairage public s'intensifie, de même le rechargement des graviers sur la voirie urbaine par l'entreprise chinoise GGP se poursuit ça et là. Les arbres sont émondés le long des principales avenues, les abords reçoivent une couche de peinture. Il en est de même des édifices publics censés abriter les invités de la 9e conférence des gouverneurs. Autrefois sceptique à cause de nombreux reports, la population se dit maintenant rassurée de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Oui, il va venir. Vraiment, je suis sûr. Comme les gars de Républicains sont là, alors effectivement, il va arriver. Je suis content parce que c'est la toute première fois depuis qu'il était élu comme président de la République, il n'est pas encore volé des soldes.
l'Équateur. Presque tout le monde, nous sommes contents.
Du côté de l'aéroport national de Mbandaka, le trafic est en hausse avec plusieurs vols par jour. Déjà, la garde présidentielle est là. Elle effectue des patrouilles de reconnaissance par-ci par-là. La sécurité interne de la présidence s'attelle, elle, à l'accréditation des personnalités qui vont rencontrer le chef de l'État. L'internation des hôtels et propriétaires de véhicules de location signale une flambée de réservations. Les marchands de la ville s'attendent aussi à réaliser de bonnes affaires. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
En dehors de nos frontières, le chef de la principale coalition d'opposants en Tunisie a appelé ce dimanche le président Kais Saied à partir immédiatement après le fiasco des législatives de samedi, censé renouveler le Parlement et marqué par un taux d'abstention massif de plus de 92%. Le président du Front des Saluts National, Ahmed Najib Tchebi, a estimé que ce scrutin est un grand désaveu populaire pour le processus démarré par le gel du Parlement et le limogeage du Premier ministre le 25 juillet 2021.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Elia Badjo, médecin coordonnateur du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine dans le Nord Kivu. Il revient ici sur les activités menées en faveur des déplacés de guerre se trouvant dans différents sites à Goma. Docteur Elia Badjo s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Docteur Elia Badjo, bonjour.
Bonjour, monsieur Mathieu.
Vous venez de célébrer la journée internationale de la santé universelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la clôture dans ces jours?
COSAMED a organisé une série d'activités, notamment une table ronde de discussion avec les différents acteurs de la CSU. Également, on a contextualisé le thème de notre célébration et que c'est la problématique d'accessibilité aux services de santé pour les personnes déplacées dans les contextes de COVID-19. Parce que ce sont des personnes qui sont souvent laissées de côté, les personnes vulnérables incluent les déplacés internes.
Depuis tout ce temps, pourquoi vous n'aviez pas pensé aux déplacés du fait qu'ils sont vulnérables comme d'autres personnes?
Au fait, nous faisions toujours des actions, mais cette journée constitue pour nous une occasion pour élever encore la voix, pour rappeler à nos dirigeants, nos autorités, les engagements qu'ils ont pris pour nous faire parvenir à la santé pour tous. Donc c'est une occasion pour nous d'élever encore la voix, d'appeler tout le monde à des actions concrètes qui nous amènent vers la couverture santé universelle. Ça veut dire, on a dit maintenant, il y a des gens qui sont laissés de côté. Attirons notre attention sur eux. Actuellement, il y a beaucoup de cas de choléra qui se sont élevés au niveau des sites de déplacés. Heureusement, il y a le gouverneur de province qui a déclaré une épidémie dans la zone de santé de Nyiragongo. Il y a la zone de santé de Karisimbi qui est aussi affectée. Il y a 9 zones de santé qui sont affectées avec de déplacés à cause de cette crise actuelle dans le Nord Kivu. Et tous ces déplacés, je vous assure, ils ont des besoins multisectoriels. C'est ce que nous appelons les déterminants de la santé. Et là, nous devions rappeler à ça. Et donc, si on ne fait pas attention à ces vulnérables, la CSU nous dit que personne ne doit pas être laissé pour compte. Il ne doit pas vendre son bétail pour s'acheter de l'eau. Il ne doit pas vendre son bétail pour payer les soins ou les médicaments à la pharmacie.
Depuis tout ce temps que le COSAMED a constaté ces difficultés de déplacer, qu'est-ce qu'on a déjà fait?
Nous avons des équipes de médecins mobiles qui offrent des services de santé à ces déplacés. Nous avons installé, avec l'appui, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé, puis l'OMS, il nous a doté une tente. Avec cette tente, nous avons fait une clinique avancée en collaboration avec la zone de santé vers les sites de déplacés. Nous avons installé des médecins et les infirmiers et les relais communautaires pour donner les soins de santé de base à ces déplacés. Mais bien sûr, je dois vous dire clairement que les moyens sont limités. C'est à nos moyens propres, mais c'est l'engagement total de l'État. L'État doit faire son engagement, doit prendre des choses au sérieux. Et s'ils veulent déjà pour la mise en œuvre, les ambassades, on voit les autres pays, ils travaillent avec les ONG nationales, ils donnent les ressources à leurs moyens, puis ils vont aller le faire. Le président ne sera pas partout au même moment, le ministre ne sera pas partout au même moment. Et donc, ce sont les occasions pareilles qu'on doit les rappeler les responsabilités.
Alors, pour le COSAMED que vous représentez, qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer les mêmes politiques pour la prise en charge sanitaire de ces vulnérables, ainsi que d'autres personnes qui sont dans les besoins?
Et c'est parmi les clauses de cette célébration. La couverture sanitaire universelle, l'engagement est encore au niveau national. Le président de la République s'est engagé. Il a mis en place une ordonnance présidentielle qui a nommé un conseiller national de la couverture universelle. Il y a aussi des décrets du Premier ministre qui mettent en place des fonds de solidarité de santé, fonds de promotion de la santé. Il y a 5 décrets. Au niveau toujours national, parlementaire, ils ont voté une loi qui donne la couverture sanitaire universelle, qui montre encore que c'est un droit à la population. Et ces lois existent déjà au niveau national. Ça doit se répercuter. L'engagement doit se faire au niveau des provinces. provinces, les gouverneurs des provinces doivent être engagés. On doit avoir les élus provinciaux. On doit avoir des feuilles de route au niveau des provinces. Notamment la province de Kivu a déjà avancé un peu. On a déjà une feuille de route et ça doit être actualisé suivant les contextes actuels. Contexte actuel, son contexte sécuritaire et les lois qui sont déjà mises en place. Donc les provinces doivent être actualisées et réactivées pour cette CSU. Et nous devons retenir que la CSU, c'est déjà un engagement pris par le pays et on doit y aller. Et deuxièmement, on doit directement mettre en place des actions concrètes. Passons des promesses vers les actions en couvrant les personnes qui sont laissées de côté.
Qu'est-ce que nous pouvons entendre, surtout par rapport à vos plaidoyers, les activités ou bien les actions que vous menez concrètement par rapport aux déplacés dont vous faites allusion que ce sont des vulnérables?
On est des médecins, des infirmiers, des agents de santé communautaire sur terrain en appui au ministère de la Santé. Et donc, nous appelons à les organisations, les partenaires financiers et les gouvernements de venir nous accompagner de plus pour faire cette stratégie toujours avancée, faire de rapprocher les soins à se déplacer, tout appui nécessaire, matériel, de tout genre. Et nous sommes vraiment réceptifs et Kosamed sera prêt à travailler avec tout le monde et le gouvernement pour aider nos compatriotes.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, le docteur Elia Badjo, médecin coordonnateur du conseil sur la santé et l'académie de médecine dans le Nord Kivu. Il s'entretenait à partir de Goma avec Mathieu Ilunga. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.